Voilà une semaine que la rentrée des classes a eu lieu. Et la rentrée, c'est à la fois la joie des retrouvailles, ça fait longtemps qu'on ne s'était vu, tu m'as manqué, mais c'est aussi parfois, tiens, j'avais oublié combien il était pénible. C'est vrai que c'était les vacances quand il n'était pas là. Les retrouvailles sont une occasion de réjouissance, mais aussi une épreuve face à la limite, face au péché des autres. Elle réveille en nous une envie de fuite, partons loin de l'importun, dont l'indifférence d'ailleurs est une des variantes, où cela entraîne des sentiments agressifs. J'ai envie d'aboyer suffisamment fort, et c'est lui qui se tiendra à distance. Pourtant, dans l'Évangile, nous entendons un autre appel du Christ, un appel à la correction fraternelle. Jésus dit, si ton frère a commis un péché, va lui parler seul à seul et montre-lui sa faute. S'il t'écoute, tu auras gagné ton frère. Le catéchisme de l'Église catholique, au numéro 1829, si vous voulez, précisera même que la correction fraternelle est une exigence de la charité. Eh bien voilà ce que je voudrais approfondir avec vous aujourd'hui. Comment la correction fraternelle est une exigence de l'amour et quelles sont les conditions pour qu'elle s'exerce. Ultimement, l'exigence de l'amour, l'exigence de la charité, c'est l'entrée dans le royaume de Dieu. La visée la plus haute de l'amour, c'est l'entrée dans la vie divine. La visée la plus haute de la charité, c'est de participer à cette communion d'amour de Dieu pour l'éternité. Alors l'histoire sainte nous apprend que si Dieu nous sauve personnellement, il sauve Isabelle, il sauve Jacques, il sauve Paul, sans les confondre aucun, s'il nous sauve personnellement, il ne nous sauve pas individuellement, pas tout seul. Il offre le salut à chacun, mais au sein d'un peuple. Je n'entre pas dans le royaume indépendamment ou hors du peuple. Si j'y entre avec lui. Et donc, un juste amour de soi, qui porte en lui le désir de la vie éternelle, implique une ouverture à l'autre, implique la construction du peuple de Dieu et sa purification dans un effort porté en commun. Il ne suffit pas que je combatte le péché ou le mal en moi, il faut que j'aie aussi le souci de le chasser de la vie de la communauté. La communauté, c'est la vie de ma famille. La communauté, c'est la vie de ma classe. La communauté, c'est mon groupe de travail. Il faut que j'aie le souci de chasser le péché de la vie de la communauté, que je m'implique dans la construction d'un peuple saint. Voilà, d'où la correction fraternelle. Je ne peux pas, nous ne pouvons pas construire un peuple saint sans utiliser ce moyen de la correction fraternelle. Et c'est ainsi que le Seigneur avait institué le prophète Ézéchiel comme guetteur pour le peuple. Il avait pour mission de rappeler le peuple à ses engagements envers le Seigneur, de dénoncer les infidélités à l'Alliance. Et c'est vrai, c'est une mission périlleuse, puisqu'il va s'agir de dire des choses au peuple qui ne sont pas forcément très agréables à entendre. Et de fait, les vrais prophètes meurent martyrs. Alors nous sommes aussi prophètes par notre baptême. Nous sommes envoyés aussi comme guetteurs. Et oui, c'est une disposition d'esprit qui est complètement différente de celle de Caïn dans le livre de la Genèse. Vous vous souvenez peut-être l'histoire de Caïn. Caïn vient de tuer son frère. Et le Seigneur l'interroge pour ouvrir un dialogue, laisser une porte ouverte à une conversion. Et il demande à Caïn, « Qu'as-tu fait de ton frère ?» Caïn répond, « Suis-je le gardien de mon frère ?» Dans l'esprit de Caïn, « Je ne suis pas le gardien de mon frère, ce qui lui arrive, peu m'importe. » Ce n'est pas ce que Dieu veut. La charité qui souhaite ultimement l'entrée dans le royaume, la participation à la vie de Dieu, implique donc ma participation à la construction d'un peuple saint et donc le souci d'une correction fraternelle. Alors cela étant dit, regardons maintenant les conséquences concrètes de la charité pour pouvoir exercer cette correction fraternelle. Parce que ce n'est pas quelque chose de simple d'exercer cette correction fraternelle. Pour pouvoir être exercé dans l'amour, la correction fraternelle doit refuser une double haine de l'homme. Il y a deux haines de l'homme qu'il faut repousser si on veut que notre correction fraternelle soit juste et soit faite dans l'amour. Ce que j'appelle une première haine de l'homme, c'est l'illusion que l'homme doit être immédiatement parfait et que s'il ne l'est pas, il doit être éliminé. Si je ne suis pas parfait, je dois être éliminé. Si tu n'es pas parfait, tu dois être éliminé. Et c'est cette disposition qui rend si désagréable et si difficile à entendre une correction. Voilà, d'où vient que nous réagissions avec agressivité quand on nous fait une remarque qui est objective et qui est formulée sans mépris. Cette agressivité qui jaillit en nous, c'est le signe que nous percevons les corrections comme une menace. Si je suis en tort, ben je vais être chassé, éliminé. Et du coup, il ne faut pas qu'on sache, ou non, c'est pas vrai. Parfois, on en chérit l'hypocrisie, qu'on ne dévoile pas mes torts, dans une logique pas vue, pas prise. Parce que si on était pris, on serait pendu immédiatement. Tu me reprends, je le comprends comme une menace. Alors moi aussi, je vais sortir des menaces. Ça vient, cette disposition, cette peur. J'ai l'impression qu'on va me tuer, donc je réagis avec agressivité. Parce que je crois que si je ne suis pas parfait, je n'ai pas le droit d'exister. Donc si on me fait remarquer que je ne suis pas parfait, t'es une menace. Tu en veux à ma vie. La réponse du Christ face à cela, elle nous est donnée au début du chapitre dont est extrait l'évangile de ce jour, où Jésus dit « En vérité, je vous le dis, si vous ne retournez pas à l'état des enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » C'est le premier verset du chapitre 18. Pourquoi parler de l'état des enfants ? Jésus ne nous invite pas à être infantilisés, mais les enfants ont cette qualité, la qualité suivante, ils savent qu'ils doivent grandir, premièrement, ils savent qu'ils le peuvent, et troisièmement, ils savent qu'ils ont besoin des autres pour cela. Ils savent qu'ils doivent grandir, qu'ils le peuvent et qu'ils ont besoin des autres pour cela. Et du coup, la perception d'un manque, la perception d'une incapacité n'est pas le signe que je dois être éliminé, mais devient le signe d'un chemin de croissance. Si tu me guides, si tu me permets de corriger ma trajectoire, de l'affiner, ben je te remercie. La correction fraternelle dans ce cadre n'est plus une menace, mais une opportunité de croître, une chance pour que ma vie grandisse. Avoir cette qualité de l'enfant qu'il sait qu'il doit grandir, qu'il le peut et qu'il a besoin des aides de l'autre pour cela, pour accueillir la correction, non pas comme une menace pour ma vie, mais comme une opportunité d'affiner ma trajectoire. Pourtant, vous me direz, on a quand même connu des remarques qui parfois sont assez acerbes, qui sont assez difficiles à avaler. Il m'a fait une remarque et j'ai trouvé ça vraiment amer. Ça m'a fait mal. Parce que il arrive que les remarques qui sont faites omettent de se garder de la deuxième haine de l'homme. Et la première haine de l'homme, je disais, c'était l'illusion de croire qu'il fallait être parfait pour avoir le droit d'exister. La deuxième haine de l'homme, c'est celle qui désespère que l'homme puisse se corriger, qui désespère que l'autre puisse se corriger. Non, il ne pourra jamais se corriger. Il ne peut pas. Ben dans ce cas-là, si je ne crois pas que l'autre puisse se corriger, alors ma remarque, c'est vrai, va viser plus à faire mal qu'à corriger un frère. C'est vrai qu'il y a des remarques qui alors visent à brimer, à faire mal, à humilier. C'est vrai que parfois elles se camouflent sous les atours de l'amitié, mais c'est pour ton bien que je te le dis. Mais l'intention qu'il apporte relève plus du dressage alors que de la correction fraternelle. C'est quoi la différence, on pourrait dire, entre les deux ? Ben, le dressage, vous voulez juste que l'autre fasse. Vous n'en avez rien à faire, que son intelligence et que son cœur soient impliqués. Je veux juste que tu fasses. Mais alors, je ne suis plus en train de corriger un homme, je suis en train de dresser un chimpanzé, ou alors qu'il fasse l'illusion. La correction fraternelle, pour être exercée dans l'amour, doit exprimer en même temps qu'elle reprend, qu'elle fait sa remarque, l'espérance que l'autre peut entendre, que l'autre veut entendre, que l'autre veut grandir. La correction fraternelle véritable prend soin de manifester qu'on ne parle que parce qu'on aime l'autre, que parce qu'on espère en lui. Et il faut se rendre compte que parfois on peut faire une remarque qui est vive, parce qu'il y a besoin d'une certaine vivacité, mais que cela n'empêche pas de manifester que cette remarque même vive est faite parce que je sais que tu peux mieux faire, parce que je sais que tu veux mieux faire, parce que je sais que tu en as la capacité, que tu veux faire les choses bien. Puissions-nous apprendre à unir à nos remarques l'espérance que l'autre peut entendre, que l'autre veut se convertir, que l'autre peut se convertir. Peut-être que ça vous est arrivé justement de rencontrer, il y a certaines personnes qui ont un don pour le faire. Elles vous font une remarque qui peut être très précise, et pourtant vous l'avez entendue, vous n'avez pas été humilié, ça ne vous a pas fait une peine terrible, peut-être un peu ennuyé, mais il n'y a pas eu de blessure. Remarquez, soyez attentifs à ce qu'ils ont fait. Ils sont à ce moment-là des maîtres de sagesse dans cette capacité à dire avec espérance. Et si nous acquérons cette capacité, nous ferons beaucoup de bien autour de nous. Si nous acquérons cette capacité, nous serons des vrais ouvriers à cette constitution d'un peuple saint. D'où vient notamment cette capacité d'espérer dans la correction fraternelle? Elle naît de l'humilité. Elle naît de l'humilité de savoir d'où l'on vient, que l'on a été, que l'on est soi-même miséricordié, qu'on a reçu la miséricorde de Dieu. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'après notre évangile, Jésus va introduire une parabole d'un débiteur insolvable, celui qui devait 60 millions de pièces d'argent, 60 millions de journées de travail, et à qui on remet sa dette, on efface sa dette. Et dans l'esprit du maître qui efface sa dette, c'est pour que l'homme, à son tour, vive de cela. C'était pour que l'homme, quand il était abordé par quelqu'un qui lui devait 100 journées de travail, lui pardonne, remette sa dette comme à lui il avait été remis. L'humilité naît de savoir que nous-mêmes, nous avons reçu miséricorde abondamment, surabondamment. Frères et sœurs, pour entrer dans le royaume, pour entrer dans le royaume au sein du peuple de Dieu, demandons à l'Esprit-Saint de nous garder de cette double haine de l'homme, que l'illusion de devoir être parfait pour être admis à vivre ne nous étouffe pas, que le désespoir que l'autre puisse se convertir ne nous durcisse pas. Conscience comme des enfants d'avoir à grandir et d'avoir nous-mêmes infiniment bénéficié de la miséricorde de Dieu, que l'audace de nos paroles manifeste l'espérance que nous gardons en notre frère. Amen.